deux voleurs mettent au point le crime parfait. Pendant qu'ils braquent une banque, ils prennent en otage la famille du directeur de l'établissement, s'assurant d'avoir assez de temps pour s'enfuir. Les agents fédéraux suivent leurs traces pendant plusieurs années. Aussitôt capturés, les bandits s'évadent et se lancent dans une série de vols alors que le FBI est toujours à leur trousse. Vous écoutez les dossiers du FBI. Braquage à domicile. Première partie.
Le 28 décembre 1982 à Oklahoma City, Steve Thompson, le vice-président d'une banque, et sa femme Helen rentraient à la maison après une réception des fêtes. Soudainement, une voiture arriva derrière eux.
En descendant de voiture et en entrant dans le garage, ils ont crié « Monsieur Thompson, nous sommes du FBI !» Quelques secondes plus tard, nous étions à leur merci.
Helen Thompson crut d'abord que les agents avaient fait erreur.
Je ne voyais pas pourquoi des agents fédéraux voulaient nous voir et j'avais déjà entendu parler d'erreurs de leur part. J'ai donc regardé l'homme et je lui ai dit « Vous devez vous tromper, puis-je voir votre carte d'identité ?» Et il a alors sorti une arme.
Un des hommes portait une perruque. C'était lui qui semblait être chargé d'imposer son autorité aux victimes. L'autre commandait l'opération.
Il y avait forcément quelqu'un d'autre avec eux parce qu'un chauffeur les avait déposés et il était reparti.
Steve Thompson.
On n'a jamais revu cette voiture par la suite.
Les deux assaillants forcèrent le couple à entrer dans la maison. Le chef commença à interroger Thompson sur la banque où il travaillait. Celui-ci fut coopératif, car il souhaitait que cette mésaventure se termine sans que quiconque ne soit blessé. Thompson répondit entre autres à des questions sur le système de sécurité complexe de la banque. Il songeait d'abord et avant tout à la sécurité de ses employés.
Je ne leur ai pas donné les noms des personnes qui connaissaient les combinaisons. J'ai dit, on va devoir attendre pour voir qui sera là et qui a les combinaisons. Je ne voulais pas mettre en péril la vie de ces personnes.
Un homme appela et demanda à parler à l'un des assaillants. Il semblait mettre au point les plans pour un vol le lendemain. Le chef intima à Thompson de suivre ses ordres à la lettre.
Il voulait que je le prenne au sérieux. Il m'a dit, si quelqu'un déclenche l'alarme demain, si quelque chose ne tourne pas rond et que des policiers viennent, je vais les tuer. Il a ensuite ajouté, il n'est pas question pour moi de retourner au pénitencier.
Les deux hommes retinrent le couple captif pendant toute la nuit. Une heure avant l'aube, ils les forcèrent à les conduire à la banque. À 9 heures, ils attendirent ensemble l'arrivée des employés. Un complice était garé devant l'immeuble et surveillait les lieux.
Pendant que le vol avait lieu, l'un d'eux était en contact permanent avec quelqu'un au téléphone. Cette personne l'informait du nombre de personnes qui se présentaient à la porte d'entrée principale.
L'assaillant savait que seulement certains employés avaient accès au système de sécurité à combinaisons multiples.
Ma'am, I need to know, do you have the combination to the safe?
No.
I need you to come with me.
Les employés qui ne connaissaient pas les combinaisons furent envoyés dans les toilettes.
Il faut toujours plus d'une personne pour accéder à quoi que ce soit.
Steve Thompson.
Nous avions divers systèmes de sécurité dans la chambre forte et plus particulièrement dans celle où nous conservons l'argent liquide.
Sir, I need to know, do you have the combination to the safe?
It's okay. Yes, I do.
I need you to come with me.
Tous ceux qui connaissaient les combinaisons se mirent au travail.
Il tentait de déterminer qui pouvait lui donner accès à ses liquidités.
Bientôt, il ne resta plus qu'une seule combinaison à composer avant que les voleurs puissent mettre la main sur un butin de centaines de milliers de dollars. Le voleur à la perruque semblait plus agressif que l'autre. En moins de 30 minutes, il eut en main des centaines de milliers de dollars.
Did you get it?
Got it.
Come on. I need your keys.
Les deux hommes amenèrent Thompson et le gérant dans le local où se trouvaient les autres otages.
Il m'a fait entrer dans les toilettes et nous a dit qu'il leur en restait pour 5 minutes, de ne pas sortir pour regarder ce qu'ils faisaient. Et ils sont sortis des toilettes. Mais moi, j'étais persuadé qu'ils fileraient sans attendre. Je n'ai attendu qu'un peu plus d'une minute avant de sortir.
Quand Thompson se fut assuré que les voleurs étaient partis, il demanda au gérant d'appeler les autorités. L'appel fut transmis aux unités de patrouille d'Oklahoma City. Comme le voulait la procédure, on alerta également le FBI. L'agent spécial Mike Seichel prit l'appel.
J'ai crié aux autres agents de l'escouade que nous avions un vol de banque sur les bras. Je leur ai dit où c'était arrivé et je leur ai transmis toutes les informations en ajoutant que les voleurs étaient partis. Plusieurs agents ont alors pris la direction de la banque.
Les unités de patrouille arrivèrent en premier. Les agents du FBI arrivèrent quelques minutes plus tard. Selon la loi Hobbs, signée en 1946 sur la protection des institutions bancaires aux États-Unis, c'est le FBI qui est chargé d'enquêter sur les vols de banque. Dans ce cas-ci, cela signifiait qu'une force policière de juridiction nationale enquêterait sur ce crime et se mettrait à la recherche des voleurs. Les Thompson racontèrent leur mésaventure qui avait commencé la veille au soir. Il s'agissait d'un crime commis par des professionnels et ceux-ci n'avaient laissé aucun indice. Ces voleurs n'en étaient sans doute pas à leur première expérience. Mais aucun vol de ce type n'avait eu lieu dans la région par le passé. Les agents fouillèrent la base de données du FBI pour voir si un vol du même type avait été commis ailleurs au pays. Ils trouvèrent alors un dossier sur d'autres cas où les voleurs avaient commencé par prendre en otage des directeurs de banque dans leur résidence privée.
J'ai sorti ce dossier pour constater que plusieurs de nos bureaux avaient enquêté sur des vols identiques.
Agent spécial Mike Seichel.
Je suis alors entré en communication avec eux.
Seichel espérait trouver un agent qui connaîtrait les suspects qui avaient volé la banque d'Oklahoma City. Il tomba sur l'agent Steve Chenoweth du bureau du FBI de Phoenix. Seichel lui décrivit le vol qui avait commencé par l'intrusion dans la maison d'un directeur de la banque. Il lui parla des déguisements des voleurs et de leur comportement. Chenoweth mentionna alors les noms de deux criminels qu'il connaissait, Terry Connor et Joseph Dougherty, et qui agissaient exactement de cette façon.
Leur mode d'opération était exactement le même. Quand on m'a informé des détails de cette affaire à Oklahoma City, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient là-dessous.
La description des témoins correspondait à celle des deux suspects. Comme Chenoweth les connaissait bien, on lui confia la responsabilité de cette enquête. Il savait que Connor et Dougherty s'étaient rencontrés dans une prison fédérale. Terry Connor avait orchestré 3 vols de banque en Arizona. Chaque fois, lui et son complice avaient retenu captifs des employés de la banque pendant la nuit précédant le vol.
Joe Dougherty était un gangster de Philadelphie, un type qui ne lâchait pas sa victime, les yeux dans les yeux, avec, par exemple, une arme dans une main et dans l'autre, une note ordonnant à la caissière de lui donner tout l'argent qu'elle avait. C'était un personnage plutôt rustre qui était loin d'avoir l'intelligence de Terry Connor.
Connor était un beau parleur et il recrutait aisément des complices.
Terry était avant tout un type de la côte ouest. Il venait de la Californie. Nous avons donc concentré nos efforts pour retrouver sa trace en Californie.
Les agents entrèrent en contact avec les agents du bureau du FBI de Monterey. Ils transmirent à l'agent spécial Alan Frymere tout ce qu'ils savaient de Connor.
Nos collègues d'Oklahoma City nous ont dit qu'ils croyaient que le suspect avait une petite amie à Pacific Grove, en Californie. Ils croyaient aussi que Connor était peut-être en route vers cet endroit. Ils nous ont demandé d'enquêter de ce côté-là.
Les agents repérèrent la maison de la petite amie de Connor. La surveillance de la maison leur permit de croire qu'il y avait peut-être là un lien avec Terry Connor, qu'on croyait avoir été vu pour la dernière fois à Oklahoma City.
En vérifiant les lieux, on a aperçu un véhicule devant la maison immatriculé en Oklahoma.
Agent spécial Harlan Primer.
On en a avisé les agents du bureau d'Oklahoma City. Ceux-ci n'ont rien trouvé qui indiquait que le véhicule était relié à Terry Connor. Mais ils ont pensé qu'ils l'avaient peut-être acheté sous un faux nom.
Pendant que la petite amie était sortie de la maison, les agents interrogèrent son jardinier. Ils l'encouragèrent à leur dire tout ce qu'il savait et à demeurer discret. Ils lui demandèrent s'il avait vu un homme dans la maison. Il leur répondit que non. Toutefois, il avait entendu sa patronne parler d'une rencontre avec Connor la semaine suivante.
Les informations que j'ai obtenues étaient assez précises, de sorte que je savais qu'à un moment donné, Terry Connor devait rencontrer sa petite amie quelque part. Je sentais que je tenais presque le suspect.
Les agents prirent la petite amie de Connor en filature pendant plusieurs jours pour s'apercevoir qu'elle conduisait plusieurs voitures. À son insu, ils installèrent des dispositifs de pistage sur chacune d'elles, reliés aux autos et aux avions du FBI. Ainsi, ils pouvaient savoir où elle se trouvait, quel que soit l'endroit. Mais le jour où elle devait rencontrer Connor, le signal disparut.
Quand on a perdu le contact avec le véhicule, on a demandé à nos patrouilleurs de se disperser dans toutes les directions afin de le retrouver. La patrouille aérienne nous est venue en aide ce jour-là. Et c'est elle qui a repéré le véhicule sur l'autoroute, de sorte qu'on a pu se diriger par là.
Les agents se dirigèrent vers l'endroit d'où émanait le signal. Ils trouvèrent l'auto garée devant un restaurant. Une unité SWAT se mit en attente, à l'affût de quelques signes qui annonceraient le suspect. Entre-temps, un agent du FBI s'assura que le couple ne pourrait utiliser la voiture pour s'enfuir s'il revenait.
On a dégonflé les quatre pneus de sorte qu'ils ne puissent pas s'enfuir et l'on a attendu.
La plupart des opérations de surveillance exigent de longues heures de travail et sont souvent sans résultat. Mais les agents n'avaient pas le choix. Ils espéraient que le présumé voleur de banque Terry Connor apparaîtrait. Après une prise d'otage suivie d'un vol de banque en Oklahoma, les agents du FBI avaient identifié deux suspects, Terry Connor et Joseph Dougherty. Deux mois plus tard, et à près de 2400 km de là, à Atascadero en Californie, les agents surveillaient la voiture de la petite amie de Connor dans le stationnement d'un restaurant. Ils croyaient que Connor était dans le secteur et se préparaient à la rencontrer. Les longues heures de surveillance finirent par porter fruit pour l'agent spécial Harlan Frymere.
On a vu Terry Connor arriver en voiture dans le stationnement avec sa petite amie. En général, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais les photos qu'on nous avait envoyées de Terry Connor étaient d'une si bonne qualité qu'on n'a eu aucun mal à l'identifier. On savait donc qu'on était sur le point de terminer notre mission.
Comme le suspect était vraisemblablement armé, on laisse à l'escouade tactique prendre les commandes de l'opération. Les agents agirent rapidement, ne laissant pas à Terry Connor le temps de s'enfuir. Après avoir interrogé la petite amie du suspect et estimé qu'elle n'était pas impliquée dans ses crimes, les enquêteurs la remirent en liberté. Les agents constatèrent alors qu'ils avaient doublement bien fait de dégonfler les pneus de la voiture de la petite amie.
Juste avant son arrestation, Connor avait ouvert le coffre de la voiture. Sans mandat d'arrêt, on n'aurait pas pu le faire ouvrir s'il ne l'avait pas fait lui-même. Suite à l'arrestation, on a pu voir ce qu'il contenait. Cela nous a été utile car on y a vu un attaché case. On l'a ouvert et on y a trouvé une somme d'argent substantielle.
Il y avait près de 40 000 dollars en argent liquide, dont les numéros de série correspondaient à ceux des billets volés à Oklahoma City. Les agents trouvèrent également un gros diamant et le reçu d'un bijoutier pour l'acquisition de 6 autres de ces pierres précieuses. Les autorités conduisirent Connor au bureau du FBI de Monterey, où on l'accusa du vol d'Oklahoma City. L'agent Steve Chenoweth apprit qu'on avait arrêté Connor, mais que Dougherty courait toujours.
Même si on cherchait 2 personnes, on était plus qu'heureux d'apprendre qu'au moins une d'entre elles avait été arrêtée. Nous étions cependant déçus d'apprendre que Joe n'avait pas été retrouvé. Mais le fait qu'on détenait Terry Connor signifiait que nous avions au moins résolu la moitié du problème. Il nous restait maintenant à retrouver Joe.
Chenoweth savait que Joe Dougherty continuerait de voler des banques comme il avait appris à le faire avec Connor. Mais sans ce dernier pour lui tenir la bride, Dougherty était plus dangereux que jamais.
Terry, c'était le cerveau. C'était lui qui prenait toutes les décisions. Joe, qui était plus enclin à la violence, était maintenant le chef des opérations. Si la maîtrise de la situation lui échappait, il n'y aurait peut-être personne à ses côtés pour le calmer.
Pendant 8 mois, on n'eut aucun signe de Dougherty. Puis, à Phoenix, la veille du jour de l'année où les magasins sont les plus achalandés et où les banques sont pleines d'argent, le vice-président d'une banque en banlieue rentra chez lui avec sa famille après le repas de fête de l'Action de grâce en compagnie de ses parents. La maison semblait avoir été cambriolée. Les intrus étaient toujours là. Les 2 voleurs gardèrent le banquier et sa famille captifs toute la nuit. Quelques heures avant l'aube, Joe Dougherty et son nouveau complice étaient prêts à dévaliser une banque. Ils s'y rendirent à bord de la voiture du vice-président de la banque et se servirent de ses enfants comme d'une garantie pour s'assurer que le banquier leur obéirait. Dougherty ne déposa jamais son arme. En moins de 2 heures, ils se rendirent à la banque, vidèrent les coffres et prirent la fuite avec $270,000 en argent liquide, laissant la famille traumatisée, mais indemne. Le vol avait eu lieu dans la ville natale de l'agent en chef responsable de l'affaire Dougherty. Quand Steve Chenoweth apprit la nouvelle de ce crime, il eut le sentiment d'en connaître déjà l'auteur.
J'ai tout de suite pensé à Joe Dougherty, mais je n'en ai été convaincu qu'après avoir interrogé les victimes et obtenu d'elles sa description physique.
Ne sachant trop si Dougherty avait voulu le défier en volant une banque dans sa ville natale, Chenoweth se rendit à la maison du banquier pour en apprendre plus sur la nuit terrifiante que sa famille et lui avaient passée sous la menace d'une arme à feu.
La plupart d'entre nous ne vivront jamais une telle situation. Passer toute une nuit comme ça avec ses 2 enfants, c'est sûrement très traumatisant. Ils étaient heureux que tout cela soit terminé et ont été ravis de nous voir arriver.
Le banquier décrivit les assaillants, ajoutant que, à l'évidence, ils portaient tous 2 des perruques. Selon lui, le plus gros des 2 semblait être le chef.
La description physique du chef était le portrait tout craché de Joe Dougherty. J'ai donc compris que nous avions affaire à lui. Mais une fois encore, quelqu'un d'autre était mêlé à cette affaire et nous ne connaissions pas l'identité de ce complice.
Les membres de la famille décrivirent le caractère des 2 voleurs. Dougherty et son complice étaient menaçants et leur comportement était plus imprévisible que lorsque Dougherty se trouvait avec Connor. Comme par le passé, les voleurs n'avaient laissé aucune piste. 6 mois plus tard, à près de 1500 km de là, soit à Reno, au Nevada, la police appela le FBI à propos d'un autre vol de banque. De nouveau, le coup avait été précédé d'une prise d'otage la veille au soir. Mais cette fois, les voleurs avaient été plus violents. Ils avaient apporté une bombe.
Ils avaient attaché le dispositif au corps de l'employé de la banque en lui disant qu'il s'agissait d'explosifs. S'il n'obéissait pas à leurs ordres, il le ferait exploser. C'était assez pour terrifier le pauvre homme, et il obéirait à coup sûr.
Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de piège, le spécialiste en explosifs de la police de Reno enleva les explosifs sur l'employé de banque et le fit sortir de la salle des coffres-forts pour sa sécurité. L'expert coupa ensuite le contact. Plus tard, il constata qu'il s'agissait d'une fausse bombe. L'employé de la banque déclara aux agents du FBI que sa famille et lui avaient été retenus captifs sous la menace d'une arme à feu toute la nuit par deux hommes portant perruques et complets cravates. Quand on lui montra la photo de Joseph Dougherty, il déclara qu'il ressemblait à l'un des deux hommes. Des témoins avaient aperçu une berline blanche immatriculée dans l'état de Washington fuir les lieux après le vol. Les agents fouillèrent le secteur. Ils trouvèrent le véhicule abandonné à moins de 200 mètres du bureau du FBI de Reno. Encore une fois, Dougherty semblait mettre le FBI au défi. La voiture était immatriculée au nom d'un homme de Spokane dans l'état de Washington. Interrogé à ce sujet, l'homme déclara qu'il l'avait vendue à un individu dont la description correspondait à celle de Dougherty ainsi qu'à une femme enceinte. Selon toute probabilité, c'était la petite amie de Dougherty. Pour les aider à capturer le couple, les agents firent appel au marshal. Ceux-ci retracent les voitures et les personnes qui se déplacent d'état en état. Le marshal Denny Barrent croyait que les voitures utilisées par Dougherty seraient l'élément clé qui permettrait de le retrouver, lui.
Joseph Dougherty était un fugitif très rusé. Il changeait aussi souvent de voiture que certaines personnes changent de chaussettes. Il achetait une voiture, la revendait parfois aux anciens propriétaires ou encore à des vendeurs de voitures d'occasion.
Les marshals remontaient minutieusement la piste complexe de toutes ces voitures achetées les unes après les autres et sous différents noms d'emprunt lorsque la chance leur sourit enfin. Un homme dont le nom était l'un des pseudonymes de Dougherty avait fourni une adresse en Idaho après avoir eu un accident routier. Comme la maison semblait abandonnée, les marshals interrogèrent les voisins. Une femme reconnut immédiatement le voleur, mais elle ne le connaissait que sous son nom d'emprunt. Elle déclara qu'il avait l'habitude assez étrange de s'entraîner au tir dans son jardin. Elle dit au marshal que sa petite amie et lui, ainsi que leur nouveau-né, avaient récemment déménagé. Après avoir obtenu l'autorisation de consulter les registres des entreprises de déménagement des environs, les marshals purent établir que la petite amie de Dougherty avait loué un camion sous un nom d'emprunt et qu'elle s'était rendue au Colorado. L'entreprise de déménagement donne à l'adresse de sa destination une maison située en montagne, près de Denver. Les agents du FBI, secondés par les marshals, mirent la maison sous surveillance à partir de la forêt qui l'entourait. Comme la vie d'un nouveau-né était en jeu, ils devaient se montrer particulièrement prudents. Ils aperçurent la jeune femme quitter la maison avec un homme qui n'était pas Dougherty. Les marshals ne parvinrent pas à déterminer si elle avait l'enfant avec elle. Ils les prirent en filature jusqu'en ville et les virent entrer dans un magasin sans l'enfant.
J'ai alors dit à mes hommes, allez jusqu'à leur voiture. Elle est garée dans le stationnement du centre commercial et essayez de voir si le bébé se trouve à l'intérieur.
Denny Berndt, Marshall.
Ils ont alors communiqué avec moi pour me dire que le bébé ne se trouvait ni dans la voiture, ni dans les bras de l'un des deux suspects. Cela signifiait que le bébé était toujours dans la maison.
Dans la maison, sans doute avec Joseph Dougherty. Depuis 2 ans, Dougherty avait toujours eu une longueur d'avance sur les policiers. Cette fois-ci, il croyait bien pouvoir enfin procéder à l'arrestation de ce dangereux voleur. Mais dans ce genre d'opération, les choses se passent rarement comme prévu.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files.
produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et David O'Donnell. Il a été réalisé par Greg Francis. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citroux.